חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם. Les חסידים des nations du monde ont une part au monde. C'est pas la peine, c'est pas nécessaire qu'ils deviennent Israël. S'ils le veulent, tant mieux, mais c'est pas nécessaire. Ils ont aussi leur part, mais dans le même sens. Ils ont dans leur identité une part qui est déjà prête pour le monde. Vous vous rappelez des sept maisons des Bnei Noach? Elles se reviennent un peu. Alors, vous voyez, de la même manière que les Bnei Israël, ce chélek, c'est Israël, pour les Bnei Noach, ce chélek, c'est au moins noir. Vous avez compris? Et j'ai fini de répondre à ta question. Alors, c'était quoi?
Comme Israël, en fait, on ne peut plus entendre, comme vous avez expliqué maintenant, pour Rélec, c'est une partie de nous qui a une parole là-bas. C'est la partie de nous qui.
Donc, quand Israël, ça veut dire tout Israël, ça veut dire chaque Israël.
Il n'y a pas de notion de mérite qui
rentre. Ah, dedans, non. Pourquoi? Parce que le mérite est déjà acquis, ce Rélec, on l'a déjà acquis, c'est le mérite des ancêtres. C'est clair? On l'a acquis depuis le premier homme à travers l'histoire des patriarches. Comment vous expliquer ça un peu plus? Bon, ça c'est le mystère de la naissance. Et chacun naît là où il est né. Finalement, chacun est celui qu'il est, et pas quelqu'un d'autre. Alors quand quelqu'un est fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, c'est lui qui a choisi d'être ça, depuis. Il a oublié. Il y a un jour, le Midrash dit ceci, on a posé la question. Pourquoi il y a si peu de juifs dans le monde? Ah, il y a des tas de réponses, l'antisémitisme, les pogroms, les massacres. Mais il y a une autre réponse, c'est qu'il y en a très peu qui ont le courage de choisir ça. On a choisi avant. C'est clair.
Oui, je
vois, oui. Parce que pour être juif, il faut être complètement cinglé ou pas juif.
Et on ne peut choisir qu'en connaissance de cause.
Mais oui, mais je te parle d'avant la naissance. C'est bon, on a oublié. Il y a un midrash qui dit que avant la naissance, Dieu propose à chaque neshama, pas seulement les hommes, toute créature, voilà ce qui serait bien pour toi. Tu acceptes pas, je te donne autre chose. Et c'est dans la Maseret Rosh Hashanah. Et puis, dès qu'on a accepté, alors il y a un ange qui vient et qui ferme la bouche pour qu'on oublie tout. C'est ça, vous connaissez le ménage. Effectivement, et après, il faut retrouver cette mémoire.
Pourquoi est-ce que le fait de fermer la bouche doit aller au
plus? Parce que le signe qu'on a oublié, c'est qu'on ne peut plus en parler. Bon, par exemple, Shema Israël, ça veut dire tais-toi Israël. Parce que vous pouvez écouter.
C'est tout, mais il suffit de le savoir. C'est-à-dire, on a tout
le temps.
C'est
pas qu'on sait. Non. Ne croyez pas que la Torah est naturelle, elle ne se donne pas en héritage, il faut la conquérir. Seulement, qui peut la conquérir? Celui à qui elle avait été donnée et reprise. Il y a une trace en creux, je ne sais pas comment dire. Alors, on reconnaît ce qui manque, on finit par reconnaître ce qui manque. C'est le même problème que pour le mariage. Chacun a plus ou moins, de façon confuse, le sens de la moitié qui lui manque. Si ça ne lui manquait pas, il ne saurait pas que c'est ça. Et quand on se rencontre, on se dit « Ah, c'est toi, ben, t'as mis le temps. » Bon. Ça va jusque-là? Et le problème, c'est de ne pas se tromper d'ascenseur. Quand un monte et que l'autre descend. Bien. Alors, vous avez compris cela. Shema Israël, ça veut dire que le conscient en moi s'adresse à ce qui est profond en moi, qui est déjà Israël. Et à travers cela, je m'adresse, bien entendu, à l'identité collective d'Israël. Ce point, ce chélek dont je vous ai parlé, je reviendrai sur la formule de la Mishnah, c'est le point par lequel chaque personne individuelle est insérée dans l'histoire collective. C'est comme ça que nous nous identifions. Okay? Israël est ce qu'il est, personne n'y peut rien, même pas les Juifs. Mais chacun est relié à cette identité Israël qui, elle, est donnée déjà au Olam Haba par un point de sa personne, exactement le point de son insertion dans l'histoire de la société d'Israël. Et c'est à ce point-là que nous nous adressons. Par exemple, vous avez d'État juif complètement assimilé et qui se conduisent comme n'importe quel goy. Et puis, c'est pas péjoratif pour les goyim, c'est leur manière de se conduire. C'est péjoratif pour les juifs. Et il faut pas être raciste. Et non, non, je suis très sérieux, puisque chassidé au montage. Seulement, ils vous diront, oh, moi, toutes ces histoires-là, je ne veux pas savoir, Moyen-Âge, le passé, l'Antiquité, mais je ne me laisserai jamais dire seul juif. Là, il rentre en transe. Et puis j'en ai souvent entendu qu'ils disent moi je suis peut-être plus juif que toi, parce que quand on me dit seul juif, pourquoi plus, mais je ne sais pas. Et c'est ce point-là qui joue, vous voyez. Est-ce que c'est clair? Vous avez énormément de juifs comme ça, complètement assimilés, mais jusqu'à ce point-là, ça c'est indélébile. Ils ont le point d'insertion à l'histoire d'Israël. C'est ce relic-là qui est intégral, qui est intègre, préservé. J'ai remarqué cela dans le comportement du. Moi, j'ai surtout ces dernières années, parce que nous avons suivi quand ça a explosé en Russie, le cas des Juifs de Russie, après 50 ans de bulldozer de l'éducation soviétique, cette identité-là qui explose, c'est ça qui joue. Vous comprenez?
Et les Juifs qui se convertissent, alors ils ont perdu ce point?
C'est qu'ils sont malades, ça j'en parlerai après. Et il peut y avoir des Juifs enrhumés. Il y a aussi des juifs convertis. Il peut y avoir une maladie de la personnalité. Ça, c'est possible. Mais malgré tout, ça reste un des débiles. Même malade, ça peut se guérir. Il faut des traitements très désagréables. Il y a des hôpitaux pour ça. Puisque pour la halakha, un juif, même converti, est considéré comme un juif. C'est une situation pas confortable, mais son identité est là. Quoique, et ça ne concerne pas du tout la part Orlam Abba. La part Orlam Abba, ils ont perdu, mais juifs, ils sont. Juifs s'emparent de Orlam Abba. Imaginez la maladie. Le Orlam là-bas. Bon, alors on revient ici. Alors, ça y est pour cette lecture. Shema Israël, Hachem Elkeinu, Hachem Echad. Je vais pousser un peu plus loin. Et nous allons voir cette lecture-là dans l'ensemble du paragraphe, du premier paragraphe. Alors, ayez le texte sous les yeux. Et qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Un quart d'heure. Bon, ça va suffire. Alors, je vous annonce en tout cas pour ce cours que dimanche et lundi prochain, vous allez étudier avec Rivon ce paragraphe, un peu plus en détail, en exégèse même, et le Rashi sur le premier verset. Et nous aurons tenu compte de l'ensemble de cette étude que vous avez eue avec moi et que vous aurez avec Rivon la semaine prochaine sur le Kriyat Shema pour la nuit d'études qu'on va fixer tout à l'heure sur ce sujet. Et alors, notez bien ce que vous allez apprendre maintenant, mais normalement, ça aurait dû être déjà la semaine dernière que vous auriez dû étudier ça, mais enfin, c'est arrivé comme ça, et vous reprendrez le texte avec Rivon plus en détail. Mais d'ici dimanche et lundi, suivant qui t'a l'heure, qui t'a belle, préparez-le attentivement par vous-même, que ça aille un peu vite, qu'on n'ait pas à épeler. Je parle du cours de Rivon. Et ne mélangez pas ce que vous avez appris avec moi et ce que vous allez apprendre avec lui. Ça, on verra après dans la conclusion de la nuit d'études. Ne perdez pas de temps à dire « Ah, mais c'est là-dessus, Manitou, il a parlé autrement » ou réciproquement. Ne perdez pas de temps. Hein. Vous apprenez le texte. C'est clair? Normalement, j'aurais dû vous donner ce schéma de structure après l'étude de Rivon. Alors, c'est ça la difficulté, je vous signale. Ne vous emmenez pas les pédales entre vos pratiques, ça va? Ce qu'il va vérifier, c'est que vous connaissez le sens des mots dans chaque phrase, et je vais vous donner déjà une grille à l'avance. Alors pour ça, il me faut une introduction. J'ai parlé du nefesh. Bon, je ne vais pas aujourd'hui vous donner tous les sens de ces mots en hébreu, nefesh, neshama, ruach. Rien que le mot de nefesh a au moins une quinzaine de sens différents. Et parce que ça risquerait de nous prendre du temps. Mais retenez qu'il y a un problème là qui est en suspens, et qu'on a retenu une des significations de nefesh, c'est la personne. Et vous prenez dans une espèce animale, l'espèce animale tout entière est une personne dans le sens d'une manière d'être vivant. Et puis il y a les individus de cette manière d'être vivant. Et les individus de cette manière d'être vivant, à la limite, sont interchangeables. Il n'y a pas de destinée personnelle de chaque individu d'une espèce animale. Même s'il y a des certains niveaux d'espèces dites plus évoluées, il y a des choses qui apparemment ressemblent à ce qui se passe dans la société humaine. Et c'est indéniable d'ailleurs, mais nous verrons quelle est la différence de comportement et d'essence. Tandis que chez l'homme, en principe, chaque individu est une personne. C'est-à-dire, chaque individu peut être tout seul l'espèce humaine tout entière. C'est ça la dignité du sujet de chaque personne au niveau de l'identité humaine. C'est clair ce que je dis là. Un des signes par lequel c'est diagnostiqué par les savants qui s'occupent de ces problèmes, on les appelle des anthropologues ou des zoologues suivant le cas, c'est que l'individu animal n'a pas le sentiment de la mort. Parce que l'espèce, elle, est éternelle en tant qu'espèce. Donc l'individu animal n'a pas le sentiment de la mort. Alors que l'individu humain a le sentiment de la mort individuelle. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi c'est un problème qui a changé d'allure depuis la bombe atomique? Vous allez comprendre pourquoi je dis depuis la bombe atomique. Jusqu'à présent, l'espèce humaine se pensait comme éternelle, les individus ayant le sentiment de la mort, mais aujourd'hui, l'espèce humaine se découvre comme mortelle. Je ne sais pas quel poète français disait à propos des civilisations, je crois que c'est Valéry. Qu'est-ce qu'il disait exactement, vous rappelez-moi? Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Oui, d'accord. Maintenant, c'est arrivé. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est clair, ce que je dis-là? Les Occidentaux, qui ont la bombe atomique entre les mains, et pas seulement la bombe atomique, il y a pire, ferment les yeux sur le problème. Il est évident que l'humanité, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, sait qu'elle peut se détruire, et qu'elle peut être détruite. Même pas se détruire, mais être détruite. Rassurez-vous, d'après la tradition juive, il y a des rescapés. Donc, qu'est-ce que tu veux dire?
Je suis tellement d'accord avec ce que ça veut dire,
Bon, ça fait rien. Oui, je sais que ça peut être controversé, mais pas en général, du tout, tout court. Okay. Il n'y a pas de destinée personnelle dans l'individu animal. Il y a le fait de vivre à l'indice individuel une programmation de destinée d'une espèce. Voilà. Retenez en français, en tout cas, la différence entre individu et personne. Alors, ce que je voulais surtout dire, c'est ceci. En principe, tout être humain est donné à être une personne. Ça ne veut pas dire que tous sont capables. Beaucoup d'individus sont individus, comme si c'était au niveau d'une espèce animale, et puis un petit peu, quasi une personne. De très rares individus sont vraiment des personnes à eux seuls. Est-ce que c'est plus clair, ça? Mais en principe, ça changerait un autre sujet, en principe, chaque... individu est une personne. On appellera un effet. Lorsqu'on réutilisera le texte du début de Bereshit, la différence du sens de nefesh lorsque ça s'adresse aux animaux et lorsque ça s'adresse aux hommes, on verra premièrement cette différence radicale. Une espèce animale est en tant qu'espèce une neshama, alors que chez l'homme, chaque individu est censé avoir une neshama. Pas tous n'en sont capables. Nous avons des étincelles de neshama. Chacun, au niveau où il est, a une petite lueur de neshama. On est beaucoup plus individu que personne, mais c'est l'objet de la destinée de faire que tout l'individu coïncide avec sa personne. Est-ce que les termes sont suffisamment clairs? Bon. Alors, je vais prendre comme postulat ceci. Chacun d'entre nous est une neshama qui s'exprime au niveau d'un nefesh. Retenez provisoirement, je dis bien provisoirement, l'équation suivante. Et à... L'aneshama, c'est ce qui fait que je suis quelqu'un conscient de lui-même, avec les attributs d'une personne, avec une destinée propre. Et il y a le corps qui est le véhicule de cette neshama dans à la relation de la vie extérieure, pour la vie de relation. Et alors, je ne suis pas cette neshama, pas encore. Et je ne suis pas que mon corps, encore. Je suis une personne qui apparaît en synthèse entre ces deux manières d'être, la neshama et le corps. Et quand je dis le corps, c'est un corps mort, hein, c'est un cadavre, c'est un corps vivant. Le corps vivant tout entier peut fonctionner comme un être vivant. Par exemple, vous trouverez des textes où on va comparer telle ou telle manière d'être homme au niveau moral à des animaux. D'ailleurs, les grands savants de ces sciences-là contemporaines le disent avec une naïveté déconcertante, que nous sommes des animaux modifiés. Je sais pas. Et alors on s'est dit toujours, ben, c'est peut-être vrai pour eux. Donc, enfin, il y a des hommes qui retombent au niveau de l'être de nature, tout en restant des hommes, mais ça veut dire qu'ils sont des corps vivants, avec toutes les fonctions du corps. La Neshama s'est cachée, elle est loin. C'est clair jusque-là ? Et nous verrons d'ailleurs que, pour la tradition de la Bible, c'est la dimension morale de la Neshama qui prime tout. On peut être très intelligent et immoral, c'est-à-dire que la Neshama est cachée. Mais le cerveau fonctionne. Bon, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et alors, ce nefesh, je vous donnais une comparaison. Vous prenez par exemple l'eau. L'eau, on peut analyser les éléments de l'eau, je crois que ça s'appelle l'électrolyse. On peut faire l'électrolyse de l'eau, et puis il en résulte d'un côté l'oxygène, de l'autre côté l'hydrogène. Alors, s'il y a une étincelle qui fait la synthèse, alors l'hydrogène et l'oxygène se combinent pour faire de l'eau. L'eau est au niveau de la synthèse du nefesh. L'hydrogène, c'est le corps, l'oxygène, c'est l'âme. Oui. Et à la mort, il y a l'électrolyse, ça se sépare. Et le nefesh est entre parenthèses. La neshama redevient la neshama, avec l'acquis qu'elle a eu de cette expérience-là, et le corps retourne de là où il est venu, la poussière, comme dit le traducteur. Vous avez compris le problème ? Alors, c'est du nefesh qu'on parle. Bon. Alors, ce nefesh s'exprime à trois niveaux de comportement. Alors, je vais mettre ça au tableau. C'est-à-dire, le nefesh, le celui que je suis, nefesh, je vais mettre ça, s'exprime dans trois niveaux de comportement. Et vous allez voir que ce schéma va simplifier énormément de faux problèmes qui se posent dans la culture occidentale. Le comportement de la pensée, Mahashava, le comportement de la parole, Dibur, et le comportement de l'acte, Mahasa. Alors retenez bien ce schéma, prenez-le en détail. Le Nefesh s'exprime soit en Mahashava, soit en Dibur, soit en Mahasa. Ça veut dire que le nefesh est capable de penser, de parole et d'acte. À travers, bien entendu, l'instrument de relais avec le monde extérieur qui est le corps. Et vous comprenez que le circuit a double sens. Le monde extérieur se relie au nefesh à travers la mahashava, à travers le dibour, à travers le mahas. Et le nefesh s'exprime à travers la mahashava. Retenez bien ce sujet. Ça va ? Bon. Or, je vais vous montrer par exemple un des problèmes difficiles, insolubles de la philosophie occidentale. Qu'est-ce qui précède la parole ou la pensée ? Okay ? On ne s'en sort pas. La poule et l'œuf. Okay ? Il y avait d'abord un œuf ou une poule. Okay ? En fait, le nefesh s'exprime directement par la marchava, directement par le dibour, directement par le marassé, et puis il y a des liens entre eux, mais secondairement. À travers une médiation commune à ces trois véhicules d'expression qui est la volonté, le ratzon. Alors vous avez appris cinq mots, nefesh, ratzon, mahashava, dibour, mahasa. Retenez bien ces mots-là, je vous donne de nouveau la traduction. Nefesh, la personne, elle, à travers le ratzon, la volonté, s'exprime en mahashava, pensée, dibour, parole, mahasa, acte. C'est clair ? Alors voilà, la personne humaine est ici décrite dans une identité à cinq niveaux. C'est bien clair. Bon, alors nous allons lire le premier paragraphe du Kriyat Shema, et en le lisant, je vous indiquerai quelle est la kavana du rite de cette affirmation de l'unité que je prends comme souveraine sur moi à ces différents niveaux-là. Nous allons le voir dans le texte. Qu'est-ce que veut dire le rite ? Non, voilà, le nefesh est une image, hein. Le nefesh est entouré du ratzon. Et à travers le ratzon, le nefesh peut s'exprimer en pensée, ou en parole, ou en acte. Alors, personne, volonté, pensée, parole, acte. Attends. Vous aurez par la suite d'autres schémas sur l'identité de la personne humaine, mais c'est le schéma de base pour notre sujet. Alors maintenant, prenez votre texte du schéma. Et vous allez le prendre dans le schéma suivant. Alors, c'est chapitre 4, verset 6, pour ceux qui sont dans le varim, sinon prenez-le dans le Sidour.
Vouloir volonté, c'est la même chose.
Oui, pour notre sujet, ça peut revenir au même. La volonté, c'est la capacité de vouloir. Par exemple, la différence entre l'espérance et l'espoir. L'espérance, c'est la capacité d'espérer. L'espoir, c'est telle ou telle espérance précise, particulière. Le vouloir, c'est un vouloir particulier. La volonté, c'est la capacité d'avoir vouloir. C'est déjà moins clair. Bon, je vais prendre 5 minutes et ça fait, vous allez prendre 5 minutes sur la suite. Alors, prenez le texte. Alors, simplement, vous allez prendre le schéma. Et ensuite, à la nuit d'étude que nous fixerons, nous reprendrons ce problème après l'étude avec Ribbon. Ça va? Parce que pour cette nuit d'étude, je voudrais que vous ayez ce texte-là bien en tête. Alors, premier verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est le rite de l'affirmation de l'unité des valeurs comme souveraine sur le Nefesh, au plus haut niveau, plus profond. Ça suit ? Non, pardon. Le premier verset concerne Kabbalat Ol Malchut Shamayim, le fait de recevoir sur moi la souveraineté de l'unité des valeurs au niveau du Nefesh. Ce que dit ce verset concerne le Nefesh. D'ailleurs, je m'adresse à lui. Shema Israël. C'est clair ? Ensuite, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha uklemodecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Ce commandement s'adresse à la volonté. Okay. Pourriez vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire commander d'aimer? Tu aimeras. Mazé, tu aimeras. Oui, une première réponse simple d'après le verset. On ne commande pas d'aimer, mais la manière d'aimer. Quand tu aimes, aime comme ça. Bechol levavecha bechol nafshecha uklemodecha. Je n'ai pas traduit, mais vous connaissez le contenu. On traduit habituellement de tout ton cœur, de toute ta personne, de tout ton pouvoir. Et surtout, ne traduisez pas de toute ton âme, ce n'est pas le mot ici. Alors ça veut dire que la kavana, l'intention du rite, dans ce verset, concerne le ratson.
Quand il y a la nafshecha,
c'est rien.
Et pourtant, nafshecha, pense.
Oui, mais ça ne veut pas dire âme. Mais je vais y arriver. Habibati, je sais qu'il y a écrit Nafshecha, je le sais, alors je vais y arriver. J'étais au Talmud Torah il y a longtemps. Alors je reviens au problème. C'est parce qu'on a peu de temps, je vais vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça veut dire faire que la volonté soit orientée d'une certaine manière. Vous voyez, c'est le Kabbalat Romach Shamaim sur le Ratson, la volonté. Ensuite, dans ce même verset, il y a déjà les trois niveaux qui sont annoncés. Bechol levavecha, ça concerne la mahashava. Bechol nafshecha, ça concerne le dibour. Et bechol meodecha, ça concerne le maase. C'est déjà amorcé au niveau du ratzon. Vous avez suivi en hébreu tout le monde? Alors vous apprendrez cela, que le mot de levav, qui est traduit par cœur, c'est au niveau de la pensée et pas des sentiments. Le mot de nafshecha, qui est traduit par âme, et la traduction est fausse, si vous avez des personnes, c'est au niveau de la parole. Vous vous rappelez que l'homme se définit par... La personne humaine se définit par la parole. Vous vous rappelez? Alors, je vous donne quand même une indication de linguistique. Le premier sens du mot nefesh, c'est le souffle de l'expiration. Ruach étant le souffle de l'inspiration. Premier sens.
Expiration.
Oui, nefesh, c'est le souffle expiré. Expiration est parallèle à expression. Je m'exprime dans ce que je dis. Alors, le deuxième sens, c'est la parole, nefesh. En arabe, ça se dit nafs. Certains d'entre vous connaissent l'arabe? Et c'est le souffle qui fait que je parle. C'est pourquoi le deuxième sens de nefesh, c'est la parole. Le souffle de la parole. Alors, oui, tu vois comment ça s'organise, okay, pour le nefesh. Alors, vous avez donc ce deuxième verset. Ve'ahavta, ça veut dire Shema Israël au niveau du ratzon. Et déjà, c'est amorcé dans les trois niveaux, dans les trois lebushim, les trois revêtements du nefesh, qui sont la parole, la pensée, la parole et l'acte. Ensuite, troisième verset. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha ayom alevavecha, c'est au niveau de la pensée. Verset suivant. Ve'shinanta levanecha ve'dibartabam ve'shivtecha ve'betecha ve'derecha v'derecha v'shuvah ukumecha ve'dibartabam, c'est au niveau de la parole. C'est clair? Ensuite, vous avez deux versets pour le maasé, pour l'acte. Ukshartam leot aliadecha, ve'ayul et totafot benenecha. Ça, c'est au niveau de la capacité d'agir à l'échelle individuelle. Ukhtartam al mezuzot betecha ou bishalecha, à l'échelle collective. c'est-à-dire le dernier point, le cinquième point, est divisé en deux, l'acte au niveau individuel, l'acte au niveau de la société. Bon, j'ai beaucoup schématisé ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on le reprendra une autre fois en lieu d'étude. Et donc, il y a un plan strict dans la Kavana, l'intention de ferveur du Kriyat Shema, à ces cinq niveaux qui sont six, que je vous répète. Premier verset concerne le Nefesh lui-même, le deuxième verset le Ratzon, troisième verset la Mahashava, quatrième le Dibour, cinquième le Marassé, avec un sixième pour le Marassé dans la société. C'est clair? Vous voyez comme c'est simple. Okay? Alors, vous avez compris par vous-même que vous aurez beau lire des milliers de fois ce texte en français, vous n'auriez pas vu ce plan-là. Okay? Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai pas entendu.
Nefesh, Mahashava, Dibour. Non, Nefesh, Ratzon, Mahashava, Dibour, Marassé à l'échelle individuelle, Marassé à l'échelle collective. Ça va? Et alors, nous étudierons probablement en nuit d'étude un texte qui étudie le problème de savoir. Non, vous verrez à ce moment-là. Parce que sinon, il me faut une heure pour vous expliquer le sujet. Finalement, la halakha est que, au moins le premier verset doit être dit dans une kavana totale. C'est-à-dire, au moins à ce niveau-là, l'engagement doit être total. Ça veut dire, si on a fait une faute dans ce verset-là, on recommence. D'ailleurs, dans les autres aussi, mais là, c'est beaucoup plus essentiel. On verra ça plus en détail. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, vous avez appris hier soir, tout le monde était au cours de Yosef, j'espère. Vous étiez au cours de Yosef hier soir. Avant-hier, Slicha. Alors, je pense que le sujet de son cours était Asara Betevet.
Non.
Comment non? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a eu un
travail. Il y a eu? Hein? Qu'est-ce que tu as dit?
Non, parce que je pensais que vous aviez arrêté le cours.
Ah bon, c'est enregistré?
Non, c'est pas enregistré, justement. J'enregistre maintenant.
Et pourquoi maintenant c'est bien? Et le reste du cours? Ah bon, je sais. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui l'ont pas entendu. Voilà, l'événement qui est commémoré, c'est la destruction du premier temple, la prise de Jérusalem à la destruction du premier temple par les Babyloniens. Et c'est ce qu'on appelle un petit jeûne, ça veut dire le jeûne ne commence pas ce soir au coucher du soleil, comme par exemple Tisha B'Av ou le jour de Kippour, mais il commence demain matin aux premières lueurs. Toute la nuit, on a encore le droit de manger. Et il se termine à la sortie des étoiles. Et ça, c'est le premier sens. Et donc, rappelez-vous, la prise de Jérusalem au temps du premier temple par les Babyloniens, Nabucodonosor. Et la prise de Jérusalem au temps de la prise du deuxième temple, c'est le 17 Tammuz. Et le Tisha B'Av, c'est la commémoration de la prise du temple, la destruction du temple dans les deux fois. Vous étudierez pourquoi c'est la même date. C'est arrivé comme ça historiquement, d'ailleurs. D'ailleurs, chaque fois, le Tisha B'Av, c'est un jour où il arrive des catastrophes. J'en ai une expérience personnelle. La Première Guerre mondiale, qui ouvre tout le temps contemporain, ça a été déclaré un Tisha B'Av. C'est le 2 août 1914. Bon, en tout cas, pour revenir à notre problème, l'inquisition d'Espagne s'est faite un Tisha B'Av. Et beaucoup d'autres choses. Et puis, ça a été l'enterrement du dernier pape romain. Autre chose. Il était mort quelques jours avant, mais ils se sont entêtés à attendre ce jour-là pour l'enterrer, parce qu'il y a un midrash qui dit qu'on verra ce jour. Et alors, depuis la Shoah, c'est le jour qui a été choisi, et on l'appelle le Yom HaKadish HaGadol, le jour du grand Kadish, pour dire Kadish pour les disparus dont on ne sait pas où ils sont. Par conséquent, c'est un jour de deuil important pour lui-même, parce que c'est le jour où toutes les familles qui ont perdu quelqu'un à la Shoah et ne savent pas quand ni comment, ont leur jour de deuil ce jour-là, le 10 Tébet. Le 10 Tébet, pas Tisha B'Av. Ça s'appelle Yom HaKadish HaGadol. Et Yosef vous a dit cela? Vous n'avez pas parlé de ça? Bon, il a dû oublier, parce que je lui ai demandé de faire expressément le cours là-dessus. Bon, alors à ce propos, je voulais vous dire que il y a une branche du ministère de la Chinour. Vous savez que c'est le ministère de la Chinour? Le ministère de l'Éducation. Qui s'occupe particulièrement de tout ce qui concerne la Shoah. Et le Dafkaï a reçu un coup de téléphone du directeur de cette mahlaka, du ministre d'Arino, pour demander que vous alliez, cet après-midi, il y a un tekes, en français, il y a une cérémonie de commémoration à la synagogue Yeshurun. Vous savez où c'est ?
Oui.
Bon, vous pouvez renseigner, c'est pas loin, à côté de la sortie. À 5 heures. Alors, étant donné que ça se passe en hébreu, seuls ceux qui pensent qu'ils pourront suivre quelque chose... Mais je crois que ça vaut la peine d'y aller, que vous y assistez. Vous habillez bien comme il faut, et puis pour ceux qui veulent, vous y allez à 5 heures. Il va y avoir un certain nombre de discours, je suppose, en hébreu, et on lira les psaumes de commémoration du deuil. Et, alors ça, c'est pour cet après-midi. Mais enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire pour ceux qui pensent qu'ils ne comprendront pas, quoique tout le monde peut y assister, en fin de compte. Ça vous ferait une expérience de communication avec la communauté. Bien. Alors, essayez de vous renseigner pour ceux qui veulent y aller, où ça se trouve la synagogue des choses. Bon, alors à part ça, j'aimerais bien que nous puissions avoir quand même au moins une fois une soirée d'étude. Alors, est-ce que ça peut se faire le jeudi qui vient ? Pas celui-là, non. Le jeudi prochain. Attendez, je veux dire quelle date. Mais dites-le moi tout de suite, parce que si je bloque la soirée, quelle est...